France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Voilà donc un territoire peuplé de 57 000 habitants, mais glacé à 80%, 4 fois plus grand que la France. Le Groenland, dont on ne connaissait jusque-là que les petites maisons colorées en photo et pas beaucoup plus, est devenu depuis Trump l'objet de toute notre attention. Trump 1 en parlait déjà, Trump 2 l'a mis sur la table dès le début de son mandat et porté par son opération spectaculaire au Venezuela. Il y retourne donc depuis ces dernières 48 heures, disant que le Groenland est indispensable aux États-Unis pour leur sécurité. Notons au passage que ce morceau de territoire, les États-Unis le lorgnent depuis bien longtemps, depuis même le siècle d'avant, le 19e, stratégiquement placé sur les passages des bateaux, sur les passages des missiles, gorgés de ressources minières. Ajoutons pour la photo que les États-Unis ont déjà une grosse base dans le nord-ouest du Groenland et que leur relation avec le Groenland s'est construite sur une relation de sécurité. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait surtout des menaces de Trump ? Est-ce qu'on les met d'abord sur le compte d'un hubris démesuré et une envie tout impérialiste d'agrandir son territoire ? Ça n'est certainement pas à exclure. Est-ce qu'on croit à ces arguments de sécurité ? Et dans ce cas-là, pourquoi ça ne se règle pas tout simplement en négociant avec le Danemark et l'Europe et le Groenland sur une présence élargie ? C'est peut-être d'ailleurs ce qui est en vue avec un rendez-vous prochain de Marco Rubio au Danemark. Est-ce que Trump veut faire main basse sur les ressources minières ? Est-ce qu'il peut acheter le Danemark ? Parce qu'on en parle de ce mot acheter. Et acheter, ça peut vouloir dire faire de l'entrisme dans les milieux indépendantistes. Par exemple, nous vous aiderons financièrement et vous nous laisserez le champ libre. Est-ce que ce dernier point peut résonner sur un territoire que le Danemark a l'air de chérir ? Mais enfin qu'il chérit bien à propos quand même. Les relations entre le pays européen et son territoire ont été tumultueuses par le passé. C'est le moins qu'on puisse dire, nous y reviendrons peut-être. C'est dans tous ces arguments qu'on va essayer de piocher au fil de vos questions, essayer de comprendre aussi si nous, Européens, avons une marge de manœuvre et à quoi elle peut ressembler, si nous avons des options et lesquelles. C'est le téléphone sonne, les amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Valérie, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Bonsoir à tous, merci de prendre mon appel.
Alors j'avoue
que je suis stupéfaite que Trump soit encore en train de parler d'envahir le Groenland. Le Groenland appartenant au Danemark, il fait donc partie de l'Europe. Je ne comprends pas que tous les Européens ne se soient pas unis pour dire stop, hors de question. Enfin, je suis abasourdie. Je veux dire, dans ce cas-là, après, je ne sais pas moi, il va envahir la Nouvelle-Calédonie. Comment se fait-il ? J'ai l'impression que l'Europe n'est pas assez ferme sur ce sujet-là. Il n'y a pas matière à discussion. Ça fait partie de l'Europe. De quel droit Trump peut-il se permettre d'envahir ce territoire ?
Il n'y a pas matière à discussion. Pardon Valérie, pardon, je vous ai interrompu. Allez-y.
Oui, je disais, j'ai l'impression que l'Europe est faible et que si jamais il arrivait à ses fins, ce que je n'espère pas, quel poids l'Europe aurait au reste du monde ? Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, enfin j'espère que ça n'arrivera pas, pourquoi ne fait-on pas des contingents des différents pays d'Europe qui partent au Groenland pour défendre ce territoire ?
Eh ben, on va la poser la question, on a entendu votre incrédulité et on va tâcher d'y répondre. Valérie, merci beaucoup pour cette entrée en matière pour discuter avec nous, l'eurodéputé, vous l'avez, eurodéputé Renew, bonsoir Nathalie Loiseau.
Bonsoir.
C'est vous qui allez nous donner ces fameuses marges de manœuvre européennes que Valérie attend et d'autres de nos auditeurs d'ailleurs. Mico Blougeon-Mirette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des régions arctiques, vous êtes chercheur senior à l'Université du Québec de Trois-Rivières, vous êtes aussi enseignant pôle énergie climat à l'école de guerre à Paris. Merci à tous les deux d'être ici, c'est du coup vers vous que je vais me tourner. Nathalie Loiseau, notre auditrice, semble penser, et elle n'est pas toute seule, si j'en crois le standard, que c'est bien mou cette réaction européenne en fait.
Depuis l'arrivée ou le retour de Trump au pouvoir, l'Europe a l'air tétanisée. C'est très choquant, et ce que dit Valérie est parfaitement juste, et elle reflète ce que pensent les populations européennes qui se disent qu'il faut quand même qu'on apprenne à se faire respecter. Mmh. Alors, une toute modeste correction, le territoire du Groenland n'est pas dans l'Union européenne. Mmh. C'est un territoire du Royaume du Danemark qui n'est pas dans l'Union européenne parce qu'il ne l'a pas voulu dans le passé.
Le terme appartient au Danemark, je vous interromps, je vais revenir. Le terme appartient au Danemark, Mikomeret, c'est un terme impropre d'ailleurs ou pas ?
Ben, c'est un terme colonial, voilà. Tout simplement.
C'est pour ça que
je
pose la question. Ouais.
Absolument, ouais. Je vous ai bien senti, Fabienne, là-dessus. Effectivement, quand les Danois sont arrivés, ou plutôt quand ils sont revenus d'une manière ou d'une autre, en 1721, en tout cas c'est en 1721, avec l'arrivée de Hans Egede, missionnaire, qu'on va faire commencer la colonisation danoise contemporaine du Groenland, et bien tout simplement, 300 ans plus tard, la question qui se pose, c'est est-ce que le Danemark va laisser le Groenland vivre sa vie.
Je reviens à ce que vous disiez, Nathalie Loiseau. Donc, oui. Effectivement, vous le dites, réaction timorée, on aurait dû le faire timorée. Avant.
Alors, des chefs d'État et de gouvernement se sont rassemblés pour dire que, la solidarité avec le Danemark était totale, que c'était aux Groenlandais de décider de l'avenir du Groenland. Pas tous les chefs d'État européens. On sait très bien qu'avec tant que Viktor Orban sera Premier ministre de Hongrie, il passera toutes ses foucades à Donald Trump. Mais un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement...
Je veux dire, on peut passer outre la Hongrie pour donner un signe fort.
Oui,
et on a l'impression
sûr.
Qu'on n'a pas entendu
Alors,
le signe fort.
Il y a eu cette déclaration. Il y a eu une autre déclaration des pays nordiques et baltes qui ont senti peut-être encore plus une forme de solidarité avec le Danemark. Il y a eu des mesures qui ont été prises depuis quelques mois, consistant à ce que l'Union européenne aide davantage le Groenland, annonce qu'elle va doubler par exemple l'argent qu'elle verse pour le Groenland. Ceci étant, je voudrais rebondir sur ce que disait Valérie, c'est pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas des contingents militaires pour empêcher une invasion américaine. Ouais. Alors, vous l'avez très bien dit dans votre introduction, c'est grand comme quatre fois la France, c'est 80% du territoire qui est gelé, et on va dire 9 mois sur 12 pendant lesquels mener une offensive militaire paraît compliqué.
On est d'accord qu'on ne va pas faire une offensive militaire contre les Américains, Nathalie Loiseau, enfin, quel que soit le cas de figure, par ailleurs, on ne va pas se mettre à se tirer dessus avec les Américains.
Mais le vrai sujet, c'est comment on les dissuade, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de mettre la main sur le Groenland.
La question,
que ce soit en essayant de l'acheter.
Voilà, et la question c'est, est-ce qu'il y a un plan européen qui est sur la table? Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, s'il essaye d'acheter, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... On est dans la surenchère, il adore ça, Trump, donc il met plein de pognon sur la table, on va en mettre encore plus et on va le faire ensemble. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça se discute, ça, ou on n'en a pas encore parlé?
Alors, je ne sais pas et je ne crois pas, mais moi je sais ce que j'aurais envie de promouvoir.
Oui.
Je pense qu'il n'y a plus à attendre, puisque les déclarations qu'il a refaites une fois encore et fait faire par ses conseillers sur « nous avons besoin du Groenland » ne laissent pas de doute sur... l'idée que quand il veut quelque chose, il essaye de l'avoir. On vient de le voir avec le Venezuela. Je pense que on a des moyens de dissuader les États-Unis en pesant à la fois sur le Congrès américain, qui commence à se poser certaines questions. Trump a été élu par une majorité largement MAGA qui pensait élire un isolationniste et quelqu'un qui ne voulait pas d'intervention à l'extérieur. Ils sont un peu surpris de ce qu'ils voient depuis un an. Donc, travailler le Congrès, travailler aussi les entreprises américaines qui bénéficient du marché européen et qui profitent du marché européen.
Donc, il faut
dire...
Faisons du chantage,
à la
Trump, c'est ça que vous dites.
Voilà. Écoutez, si vous allez de l'avant dans un projet militaire auquel j'ai du mal à croire, mais je peux me tromper, et je n'ai pas la connaissance de l'autre invité sur le Groenland. J'y suis allée une fois pour démontrer la solidarité des Européens avec la Commission de la Défense, mais je n'y suis allée qu'une fois. Je ne crois pas beaucoup à une hypothèse militaire, mais je crois beaucoup au fait que Trump se dit, après tout, dans le passé, on a acheté l'Alaska, pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas le Groenland? Et je pense qu'il faut, dès maintenant, dire les choses très crûment, si vous voulez toucher à un territoire d'un pays européen, c'est pas négociable, comme le disait Valérie, ça n'est pas discutable, et vous en subirez des conséquences lourdes pour que les mêmes entreprises aillent voir Trump en lui disant « écoute, franchement, c'est pas une très bonne idée ».
Mikomered, on l'a dit, les États-Unis lorgnent sur l'Alaska depuis longtemps. Pourquoi c'est l'Alaska?
Depuis 1867.
Sur le Groenland depuis longtemps.
Ouais. Depuis 1867 aussi.
Exactement. Est-ce que cette fois c'est différent? Est-ce qu'on sent quelque chose de différent réellement parce que c'est Trump? Donc l'hypothèse militaire honnêtement, est-ce qu'on la dégage de la table ou est-ce que quand même on la laisse sur un petit bout de la table ou pas du tout?
On sent que c'est différent. Les Groenlandais sentent que c'est différent, les Danois sentent que c'est différent, tous les pays nordiques qui font partie donc de cette intégration régionale, hein, le Conseil nordique, et qui ont leur propre organisation, si vous voulez, de coopération de défense, Nordefco, ils sentent que c'est différent. Les États baltes sentent aussi que c'est différent et ils sentent très bien ce qui pourrait se passer si effectivement le Groenland devenait américain par rapport à Vladimir Poutine de l'autre côté. Donc on a des peuples qui voient très bien ce qui se passe. On a le Canada qui voit parfaitement et qui ose dire, ou plutôt le Premier ministre Mark Carney ose maintenant dire les choses assez crûment en parlant de risque existentiel. C'est vrai, si vous avez l'Alaska d'un côté qui est états-unien, vous avez le Groenland qui est états-unien, vous avez les États-Unis en votre sud, vous êtes au milieu, vous êtes un petit peu pris en étau. Donc si vous voulez, l'enjeu ici, c'est pas de comprendre est-ce que c'est Trump ou est-ce que c'est pas Trump. Derrière Trump, il y a toute une flopée de va-t-en-guerre, premièrement, expansionnistes qui se sont pas révélés hier matin et qui, en fait, sur le Groenland, sont à l'œuvre depuis déjà 2018, 2019, 2020, avec une forme de continuité. Parce que quand Joe Biden était président des États-Unis, c'est pas comme si la question du Groenland avait été écartée.
Donc ça veut dire que ça a toujours été dans l'air, y compris par sous les démocrates, vous voulez dire ?
Oui, ça a commencé à revenir dans l'air, la question du Groenland, l'importance stratégique du Groenland en 2015, quand les États-Unis ont pris la présidence du Conseil de l'Arctique pendant 2 ans. Et puis quand Trump, pour le coup, est arrivé derrière, il a dit « Ah, attention, mais il y a de plus en plus de Chinois au Groenland. Ah, mais il y a de plus en plus de risques au Groenland. »
Alors, ma question suivante, c'est Nicolas qui va la poser. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je souhaitais vous souhaiter bonne année, mais enfin là, il faut vraiment avoir le moral.
Oh, bonne année quand même, Nicolas, merci beaucoup, ça nous fait plaisir.
Alors, la question, c'est, Trump a justifié d'annexer le Groenland pour la sécurité des États-Unis, et j'ai vu dans une vidéo de l'AFP, donc on ne peut pas la remettre en doute, que les USA avaient déjà des bases militaires au Groenland, et que rien ne les empêchait d'en avoir d'autres.
Oui, exactement.
Donc, finalement, la sécurité, il suffirait qu'il y ait plus de bases militaires, ça le rassurerait. À moins que le président du Groenland soit à la tête d'un cartel de saumon, dans ce cas, je comprendrais qu'il soit obligé de faire une action pareille.
On embrasse aussi les saumons.
Mais
votre question, Nicolas, et on va pouvoir y répondre. Miko Meret, bien sûr qu'il y a des bases. Il y a surtout la très grosse base dont vous allez me rappeler le nom.
Pitoufik,
qui est au nord-ouest, absolument. Il y a combien ? 150, 200
C'est ça, 150. Voilà. 200 quand il y a une relève.
Donc la question de Nicolas est parfaitement pertinente. Qu'est-ce qui empêche, et est-ce que c'est pas ça qui est en train de se négocier en fait ? Qu'est-ce qui empêche les Américains de dire on veut une présence plus importante, auquel cas ça se négocie ? Et si c'est non,
ils n'ont pas besoin de le négocier en fait.
Exactement. Et si c'est non, ça veut dire qu'ils vont chercher bien autre chose.
Alors je vais vous donner des ordres de grandeur. Et merci Nicolas et bonne année à vous. Vous allez voir, c'est nous qui allons rendre cette année meilleure. Le principe de cette base de dite Pitoufik, donc dont le nom a été changé en 2023, justement pour reconnaître la groenlandicité de cette base. Avant, elle s'appelait la base de Thule, donc pour beaucoup de nos auditeurs et auditrices, se souvient peut-être de la base de Thule. C'est une base qui, au plus fort de la guerre froide, a pu rassembler jusqu'à 6000 personnes sur cette base. Donc c'est une base, effectivement, qui aujourd'hui, avec seulement 150 personnels, est très sous-utilisée. C'est une base dont la nature a également changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, années 50, années 60, les États-Unis postaient là-bas des bombardiers des B-52, etc. Et l'objectif, c'était de patrouiller en Arctique, et c'était aussi de dissuader, d'un point de vue militaire, nucléaire, évidemment, l'Union soviétique en face, de l'autre côté de l'Arctique. Aujourd'hui, c'est une base qui appartient, en tout cas qui est rattachée à la Space Force, donc c'est-à-dire au corps spatial de l'armée états-unienne, et qui a un intérêt particulièrement stratégique, hein, notamment pour les satellites d'observation, les satellites espions, par exemple, optiques ou de renseignement de signaux.
Contact, mais encore une fois, est-ce que ça se négocie de l'agrandir et d'en faire une autre ? Et donc, et je répète ma question, si la question c'est non, c'est pas ça qu'on veut, ça veut dire qu'ils cherchent autre chose.
Exactement, et vous avez tout à fait raison, et vos intuitions, Nicolas, Fabienne, sont tout à fait justes. C'est-à-dire qu'il y a un pacte de sécurité entre le Danemark et les États-Unis de 1951, maintes fois renouvelé, qui dit très clairement, voilà, si les États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, attention, c'est le cadre qui est important ici, dans le cadre de l'OTAN, souhaitent ou ont le besoin, avec les partenaires de l'OTAN, de renforcer le dispositif au Groenland par rapport à la sécurisation de l'ensemble de l'espace OTAN et de ses voisinages, notamment voisinage arctique, eh bien les États-Unis peuvent faire, en théorie, autant de bases qu'ils veulent. Mmh. Ils peuvent étendre les bases autant de fois qu'ils veulent, et ils en ont eu jusqu'à 17 au point le plus fort de la guerre froide.
Donc qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, Nathalie Loiseau ? Est-ce que il nous parle de quoi, en fait ? Est-ce qu'il nous parle de lui et de son envie expansionniste ? Si j'en crois ce que dit Miko Meret, ça veut dire que quand il nous nous parle de sécurité, il nous bluffe parce que la sécurité n'est pas en cause. On pourrait même étendre des bases autant qu'on le voudrait si on le souhaitait.
Il y a un rôle stratégique du Groenland évident et encore plus évident clairement. Aujourd'hui clairement. Avec le changement climatique, avec le fait que l'Arctique devient encore plus à la fois une zone possible de confrontation et une zone possible de commerce et d'exploitation.
Exactement, les routes s'ouvrent, les glaçons, les routes s'ouvrent.
Oui, bien sûr, okay. Le Groenland, on s'y intéresse plus que par le passé. Mais comme le disait très bien mon interlocuteur, Mikko, en réalité, si les États-Unis veulent faire plus, militairement, ils le peuvent déjà. Mmh. Il y avait d'ailleurs eu un exercice militaire allié au Groenland en septembre, pendant que j'étais au Groenland, et les États-Unis n'y ont pas participé. Mmh. Ce qui dit quand même beaucoup de choses.
Donc, ça veut dire...
Alors, est-ce que c'est... Souvenez-vous que dans les discussions sur l'Ukraine, entre Russes et Américains, très régulièrement, les émissaires américains laissent entendre qu'ils discutent avec Vladimir Poutine de l'exploitation de l'Arctique.
Oui.
Et est-ce que Donald Trump se dit qu'en fait, il y a un partage des empires à se faire, le plus vite serait le mieux, à la fois pour les terres rares, pour les ressources dont le sous-sol du Groenland regorge, mais dont les conditions d'exploitation ont jusqu'à maintenant dissuadé même les Chinois, qui sont venus voir, mais
pas exactement, mais ça dépend des parties du Groenland.
Ça dépend des parties du Groenland,
ouais.
Mais ça n'est pas l'Eldorado immédiat, comme peut éventuellement l'imaginer Trump. Est-ce qu'il se dit que c'est le moment de placer ses pions, ou est-ce que tout simplement il se dit que c'est la période du retour des empires, et que si Vladimir Poutine étend son territoire, si la Chine a l'intention d'en faire autant, pourquoi pas les États-Unis ?
Voilà, l'aiguille sur la carte, ou donc la sécurité, ou les ressources, comme le disait Nathalie Loiseau, faut quand même si difficulté d'extraction, là, c'est vrai, mais enfin, du pétrole, du gaz, de l'uranium, de l'or, des métaux rares.
C'est lié avec le sujet de la sécurité, je vais le détailler en juste une seconde. Je pense que Donald Trump aussi est prisonnier soit d'un piège abscon, soit d'une réalité passée qu'il n'arrive pas à faire évoluer. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Donald Trump arrive au pouvoir en 2017, à ce moment-là, les États-Unis finissent leur présidence tournante du Conseil de l'Arctique, et Donald Trump s'aperçoit, ou plutôt l'administration s'aperçoit, non seulement évidemment des ressources faramineuses, ça il le savait, mais surtout que ce qui se passe au Groenland, c'est qu'il y a de plus en plus de Chinois qui arrivent pour investir dans ce secteur des ressources extractives. Et donc dans ce contexte-là, quand Donald Trump aujourd'hui nous dit, on est en 2026, voilà, dans Air Force One, encore dimanche soir, il y a des bateaux chinois et des bateaux russes partout au Groenland, etc. Aujourd'hui, c'est faux. Mais en 2018, c'était vrai. Et c'était vrai autant pour les Chinois que pour les Russes. Et donc, la question que moi, je me pose, au-delà des questions d'hubris, etc., qui ne sont certainement pas étrangères, c'est est-ce que Donald Trump n'est pas piégé dans une réalité obsolète du Groenland, parce que les Chinois sont parti du Groenland en 2021 pour des raisons liées à Trump, mais aussi des raisons liées au droit local des Groenlandais et au moratoire notamment de l'extraction du pétrole, du gaz et de l'uranium, qui a interdit les Chinois sur la mine qu'ils convoitaient particulièrement et qu'ils s'apprêtaient à exploiter en moins de 2 ans. D'exploiter les terres rares qui sont imbriquées avec l'uranium. Donc si vous voulez, voilà, les Chinois ne sont plus là depuis 2021. Les Russes, Vladimir Poutine, le mois dernier, disait encore si Donald Trump veut le Groenland, ça nous va. Effectivement, ce n'est pas leur principal problème. Donc non, cette dimension sécuritaire a changé depuis. Peut-être qu'il est prisonnier de ce qu'il avait vu.
Retour au standard, c'est plutôt une question pour vous, celle de Gilles, Nathalie Loiseau, puis ensuite on ira au Groenland. Bonsoir Gilles. Gilles, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que Gilles est là ? Est-ce que Gilles est en train de courir derrière son téléphone parce qu'il vient à peine d'entendre son nom à la radio ? Vous êtes là, Gilles ?
Oui, bonjour.
Ben voilà,
oui,
j'en étais sûr. On vous écoute, allez-y.
Bon, je ne suis pas géopoliticien. Hein. J'énonce juste une idée qui m'est venue entre les carottes et les oignons à éplucher. Trump a l'air très, très attaché à l'OTAN. Et s'il intervenait militairement en Groenland, ça serait de facto la fin de l'OTAN. Est-ce que ça ne serait pas un de ses objectifs ?
Merci
de
pour
mettre fin à l'OTAN.
Retournez à vos légumes, Gilles. On va répondre pendant que vous continuez à éplucher. Nathalie Loiseau, il met la main pour voir si c'est chaud. Et de toute façon, si ça fait péter l'OTAN, c'est pas grave.
Ah bah on sait depuis son premier mandat que l'OTAN, c'est bien quand ça achète des armes américaines, et si ça peut être un instrument de vassalisation, si ça peut être un deuxième pacte de Varsovie en quelque sorte, c'est bien, mais sinon ça l'exaspère. On sait que le sommet de La Haye qui s'est tenu l'année dernière, ça a été le premier sommet de l'humiliation pour les Européens. On a tout fait pour que ça se passe vite, pour qu'ils s'énervent pas, pour qu'ils s'ennuient pas. On l'a fait recevoir par le roi des Pays-Bas pour qu'il ait l'impression d'être lui-même très important, etc. etc. L'OTAN, c'est un peu le cadet de ses soucis. Mette Frederiksen, la première ministre danoise, n'a pas tort quand elle dit
c'est la fin de tout.
S'il y avait un affrontement entre deux alliés de l'OTAN, ce serait la fin de tout. Même si on a déjà vu des tensions, par exemple, entre la Grèce et la Turquie, ça n'a pas été la fin de l'OTAN non plus. Moi, je continue à me dire que il dit que tout est possible, y compris une action militaire, comme il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il renverse la table, il donne des coups de pied un peu partout.
Retenez-moi où je fais un malheur.
Et après, il voit comment ça réagit, et il commence à dire, bon, on va discuter. C'est ça, son soi-disant art du deal. Ça ne marche pas quand on est très ferme en face de lui, c'est-à-dire quand c'est Xi Jinping ou quand c'est Vladimir Poutine, ça ne marche pas du tout, en réalité. Évidemment, les Européens qui passent leur temps à négocier entre eux ce qu'ils vont dire avant même de commencer à agir, ça lui donne le sentiment qu'il y a un coin dans lequel il peut enfoncer les choses. Est-ce qu'il veut acheter le Groenland? Est-ce qu'il veut manipuler l'opinion des Groenlandais pour que l'indépendantisme qui est là, qui est incontestable au Groenland, se transforme en envie de rejoindre les États-Unis? J'ai tendance à dire bonne chance de ce que j'en ai vu. Et moi, je travaille beaucoup sur les questions d'ingérence. J'avais beaucoup interrogé les Groenlandais que j'avais rencontrés sur ce qu'ils avaient pensé du voyage du fils de Donald Trump. Du travail de Charlie, Charlie Kirk, etc. Ce que j'en avais retenu, c'est que oui, il y avait une offensive de manipulation des opinions qui était très forte, qui ressemblait énormément à ce que le groupe Wagner avait fait contre la France en Afrique, raviver toutes les plaies de la colonisation, et Dieu sait s'il y en a, et si c'est légitime d'en parler, mais les remettre sur la table, mais que ça avait effectivement ravivé les plaies, notamment auprès des jeunes, mais ça avait été très mal perçu par des Groenlandais qui s'étaient dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gougnafiers qui arrivent à l'américaine comme des Yankees et qui nous disent ce qu'on doit penser et qu'ils seraient très heureux avec nous.
Alors, littéralement, je voudrais qu'on y aille sur cette question au Groenland où nous attend Christian Kelsen. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Association des entreprises du Groenland. On est ravis de vous avoir avec nous pour quelques minutes. Puisque vous entendez notre conversation, moi je voudrais savoir, monsieur Kelsen, si ça sent cette espèce de pression américaine qui serait des histoires de relais d'influence, de choses comme ça. Ça existe en ce moment au Groenland, à Nuuk où vous êtes en particulier ou pas ?
Oui, la situation pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une situation qui est restée chez nous, avec nous pendant 2 ans peut-être, ou 5 ans, en fait, depuis 2019. Pour nous, c'est pas une nouvelle situation.
Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui anime Donald Trump, c'est une question de sécurité ? Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont vos ressources qu'il veut ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il veut juste pouvoir planter un drapeau sur votre territoire ?
Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas deviné la motivation profonde de Trump. Il a dit que c'était une affaire de sécurité. C'est l'argument qu'il avance. Mais ici, nous parlons aussi d'un intérêt pour les ressources minières. Pour nous, c'est un motif plus logique. Ouais. Pour l'instant, nous n'avons pas de pétrole et le Groenland lui coûterait plus cher s'il devait forer pour chercher du pétrole. Mais c'est important de dire que nous sommes ouverts à des partenaires et à des investissements américains dans l'industrie minière. Trump n'a pas besoin de rendre le Groenland américain pour réaliser cet objectif.
Et ça, c'est des choses qu'on a déjà dites, qui ont déjà été dites par les Groenlandais et aussi par le Danemark. Donc au fond, est-ce que vous comprenez ce qui se passe en ce moment, Christian Kelsen ? Parce qu'on a l'impression que sur la sécurité, le Danemark et le Groenland disent « oui, s'il faut re-réfléchir, on le fera ». Sur l'extraction des ressources, le Groenland dit aussi « oui, s'il faut réfléchir, on le fera ». Donc au fond, est-ce que vous comprenez tout ce remue-ménage dans ce moment, en fait ?
Bonne question, je ne sais pas.
Je comprends qu'ils disent qu'ils ne savent pas, Christian Kelsen, en fait, Miko Mered. Reste avec nous, Christian, juste une petite minute. Et je comprends fort bien son côté interloqué, parce qu'en effet, on a l'impression que toutes les portes sont ouvertes pour les Américains, et pourtant ils veulent autre chose.
Je vais clairement pas jouer le rôle de celui ou celle qui sait exactement ce qui va se passer, c'est évident. En revanche, il y a des signaux faibles qui, effectivement, pour revenir à votre toute première question, Fabienne, nous, collectivement, inquiète, y compris mes collègues et camarades au Groenland. Ce qu'on est en train d'observer depuis un an, c'est un redoublement et surtout un changement de nature des tentatives d'influence au niveau du Groenland. Auprès notamment de la jeunesse, auprès notamment des décideurs en dehors des capitales. Et là où il y a des ressources, en particulier notamment dans le sud du pays, où les ressources sont tout à fait exploitables demain matin, ou plutôt je devrais dire, ça prend 2 à 3 ans de construire une mine si on veut la faire. Il y a un deuxième signal faible qui est que Donald Trump, même si les gens changent décennie après décennie, finançait déjà des publicités à la fin des années 80, contre l'OTAN dans la presse américaine, et c'est assez documenté qu'il a toujours dit que l'OTAN ne servait à rien et que les États-Unis pouvaient faire tout seul. Troisième signal faible, et celui-là c'est peut-être celui qui m'inquiète moi personnellement le plus, c'est que l'administration Trump, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, refuse systématiquement de rencontrer le gouvernement autonome du Groenland, systématiquement. Je vous donne un exemple concret, le gouvernement groenlandais qui est issu des élections du 11 mars 2025, donc est arrivé, bien sûr, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Et depuis donc la fin mars 2025, la ministre des Affaires étrangères, Viviane Motzfeldt, demande un rendez-vous avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain.
Pendant que vous parlez, le gouvernement groenlandais participera à la rencontre entre Rubio et des responsables danois qui aura lieu en début de semaine prochaine, mais ça tombe à l'instant,
oui, mais
effectivement.
Non. Alors, c'est fait et c'est pas fait à la fois. Il y a un élément de subtilité ici que vraiment je voudrais que tout le monde comprenne. Ce que les Groenlandais demandent, c'est d'avoir une réunion en tête-à-tête. Et le Premier ministre Nielsen du Groenland a demandé également, ou a proposé en tout cas, qu'il y ait une discussion. Depuis le mois d'avril, le département d'État américain fait silence radio. C'est même pas qu'ils disent non, c'est silence radio. Là, il a fallu se battre et il a fallu tout le momentum de cette semaine pour qu'il y ait une réunion sur ce sujet de la sécurité au Groenland et des perspectives d'annexion, militarisation, etc. pour qu'il y ait cette réunion avec le Danemark. Et c'est 2 heures, donc, après cette annonce de la réunion avec le Danemark, qu'on annonce que les Groenlandais vont y participer. Les Groenlandais veulent pouvoir parler d'égal à égal, discuter directement.
Christian Kelsen, vous êtes encore là ou pas ?
Oui, je suis là.
Ah, formidable, merci beaucoup. Là-dessus, sur ce que dit Miko Mered à l'instant, les Groenlandais veulent qu'on en parle, veulent qu'on parle surtout avec eux. Est-ce que c'est ça aussi le centre des conversations à nous qu'aujourd'hui, dans les maisons, dans les restaurants ou partout ailleurs ? Et surtout, je pense à la jeune génération qui a besoin de le bâtir, ce Groenland-là, en fait. Qu'est-ce qu'elle dit, la jeune génération ?
Les jeunes, mais les jeunes... Les jeunes, on parle à l'histoire du Danemark et du Groenland ensemble. Pour les jeunes, c'est une situation nouvelle avec des possibilités à l'avenir. Je sais, nous avons quelques jeunes qui pensent que c'est une opportunité avec une relation ou avec un Groenland américain. Mais plutôt, des Groenlandais et des jeunes aussi n'aiment pas l'idée, une idée de Groenland, de Groenland américain.
Christian Kelsen, merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci d'avoir dérouillé votre français pour nous. Vraiment, c'était un plaisir. Et je voudrais revenir sur ce qu'il vient de dire, Christian Miko Mered. Parce que oui, cette vulnérabilité, notamment chez la jeune génération, très américanisée forcément, elle existe, non ou pas ?
Elle existe. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a 2 volets. Et je rejoins Nathalie Loiseau sur les problématiques d'ingérence. Au Groenland, tout s'est construit en termes de débat politique moderne, là, depuis une quinzaine d'années, sur Facebook, et depuis 4-5 ans, sur TikTok. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand Donald Trump Jr. et Charlie Kirk sont venus il y a 1 an jour pour jour au Groenland pour faire ce show spectaculaire avec l'avion Trump sur l'aéroport de Nuuk qui venait juste d'ouvrir. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pensé que ça allait toucher la population. Ils ont produit Turning Point USA, l'organisation...
Ils ont voulu faire du soft power, en fait.
Exactement, ils ont voulu se les mettre dans la poche. Sauf qu'ils ont été tellement dénigrants, ils ont été tellement méprisants. Par exemple, avec des youtubeurs proches de Charlie Kirk qui sortaient dans les rues de Nuuk et qui distribuaient des billets de dollars aux passants en essayant, en fait, de leur expliquer expliqué que c'était, en grosso modo, des futurs colonisés. Mmh. Ça a beaucoup choqué la population jeune groenlandaise. Et donc, il y a eu, comme Nathalie Loiseau le dit si bien souvent, un backlash, c'est-à-dire tout simplement un rejet avec ces populations jeunes du Groenland qui disent « mais en fait, ils sont venus se moquer de nous ».
La question de l'achat, Nathalie Loiseau, ça dit ça. En fait, ça dit « on utilise la vulnérabilité ». Après tout, je vais le dire sans aucune... avec beaucoup de cynisme, au fond, il y a 56 000 habitants au Groenland, c'est pas tant que ça. On donne 500 000 à chacun, multiplié par 56 000, les Américains savent faire ça.
On me l'a dit encore sur France Info hier soir, les Français.
Donc c'est une possibilité. L'Europe derrière, est-ce que notre boulot, nous en Europe, c'est de surenchérir en disant « attendez, nous aussi on peut mettre de l'argent, nous aussi on peut vous aider dans votre développement, le reste, et même potentiellement dans un chemin vers l'indépendance qui est un autre chemin ».
Alors d'une part, on le fait, on ne le fait pas forcément pour surenchérir, mais l'Union européenne est présente au Groenland, et elle aide sur un certain nombre de sujets qui sont importants pour les Groenlandais. Et peut-être que je nuancerais l'idée que la jeunesse est totalement américanisée. Ça ne m'a pas tant frappée que ça. C'est quand même très spécial. D'abord, c'est la mentalité d'une île. Mmh. Et la mentalité d'une île, c'est toujours spécifique. Puis c'est quand même un mode de vie qui n'est pas le vôtre, ni le mien.
Certaines... Une phrase, c'est même un mode de vie d'île dans les îles. Hein. C'est-à-dire que c'est 73 villages.
Et en plus, ce sont des villages qui ne sont pas reliés les uns aux autres.
D'où l'importance de Facebook et des réseaux sociaux.
Et moi, j'ai vu des jeunes Groenlandais à qui j'essayais de demander comment ils avaient perçu tout ça. Et qui me disaient, on s'est aussi renseigné sur comment vivaient les gens en Alaska. Et ça ne nous a pas forcément vendu du rêve. Parce qu'ils ont aussi l'État-providence à la danoise. Ils ont beaucoup de choses. Ils ont un avenir vers des universités danoises pour ceux qui veulent faire des études. Il y a beaucoup de va-et-vient entre le Danemark et le Groenland. Je voudrais nuancer ça un petit peu. L'Union européenne a dit qu'elle allait doubler les fonds qu'elle allait consacrer tous les ans au Groenland. L'idée, c'est pas de faire un concours de chèques, mais de demander aux Groenlandais ce qu'ils veulent vraiment. Il y a des problématiques, par exemple, de câbles sous-marins qui risquent être abîmés, soit pour des raisons naturelles, soit pour des sabotages. C'est un vrai sujet. Il y a des problèmes de télécommunications. C'est un vrai sujet. C'est là-dessus que les Européens sont aujourd'hui présents, et à mon avis, à juste titre.
On va rester sur cette question, Nathalie Loiseau, et surtout demander leur avis aux Groenlandais. Et c'est grâce à vous, Marc, qu'on aborde ce sujet. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, voilà, c'est tout simplement la question que je me posais et que je vous pose, c'est est-ce que la solution, ce ne serait pas finalement d'organiser un référendum au niveau du Groenland pour que les habitants du Groenland s'autodéterminent, savoir qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils souhaitent rester rattachés au Danemark, est-ce qu'ils veulent être complètement indépendants, ou est-ce qu'ils souhaitent être éventuellement, pourquoi pas, rattachés aux États-Unis.
Merci beaucoup, Marc, pour votre question, ce qui est une vraie bonne question, Mikko Meret, parce que les pourcentages de ceux qui souhaitent l'indépendance sont extrêmement hauts. Est-ce qu'il y avait un référendum demain, sachant que le contexte est un peu différent, est-ce qu'il serait aussi haut ?
Attention. Merci Marc pour votre question qui vraiment met le doigt sur le principal sujet. En fait, au Groenland, la très grande majorité de la population est indépendantiste. Pas de problème. Quand je dis très grande majorité de la population, on se parle de plus des deux tiers dans tous les sondages. Dans toutes les études universitaires, ça c'est constant depuis des années et des années. Maintenant, il y a un petit bémol à apporter. C'est que les Groenlandais sont pour autant des gens relativement lucides. C'est-à-dire que dans les mêmes études et sondages, etc., on s'aperçoit, et ça a été l'un des gros sujets, on en avait parlé ici à cette table, de la dernière élection générale de mars de 2025 au Groenland, les Groenlandais disent, l'indépendance, oui, c'est le but final, mais si l'indépendance doit nous amener à moins bien vivre, et notamment à avoir moins de revenus de transferts sociaux, moins de capacités de santé, moins de capacités, etc., etc., on n'en veut pas. Et là, permettez-moi de faire le lien avec les États-Unis. Les États-Unis jouissent d'une sale image, c'est-à-dire que quand on fait la comparaison entre le modèle social groenlandais, adapté bien sûr du Danemark et de l'Europe en général, et le modèle social états-unien, qu'on parle par exemple des congés paternité ou maternité, quand on parle par exemple des congés de santé, quand on parle tout simplement de la durée du temps de travail, quand on parle de la durée de vacances, etc.,
Et des préoccupations écologiques.
Mmh. Ça, j'en parle même pas, parce que ça me paraissait évident, mais merci
mais de quand
citer.
Même.
Bien sûr, ils ont une sale image. Une personne ne veut devenir américain, seulement dans le tout dernier sondage de référence sur le sujet, 6% des répondants disaient « ok pour être américain ».
Donc du coup, je me posais la question de savoir si ce contexte-là avait fait bouger les sondages sur l'indépendance, et si aujourd'hui, parce qu'il y a ce contexte, ils se garderaient bien de répondre de la même manière à cette question-là, s'il y avait demain une consultation les Groenlandais.
Et c'est bien le risque, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et comme le gouvernement précédent entre 2021 et 2025, les décideurs groenlandais ne sont pas prêts à organiser ce référendum. Parce qu'effectivement, ce référendum, il voudrait dire quoi? Si les Groenlandais répondent oui, et il y a de bonnes chances quand même qu'il y ait un oui, même un oui qui passe à 55-45, il y a de bonnes chances qu'il y ait un oui. Et ben après, il faut livrer le oui, c'est-à-dire que de fait, il faut respecter ce vote et il faut pouvoir justement dire, alors voilà comment on va financer le modèle social, voilà comment on va financer, voilà. Et aujourd'hui, les industries au Groenland qui pourraient potentiellement financer cette indépendance, notamment les minerais, notamment le tourisme, notamment l'exploitation de l'eau, du sable, tout ce que vous pourriez imaginer, sans prendre en compte les problématiques écologiques, évidemment, parce que là, il y a une dimension opportuniste qui est très claire, et bien de fait, ce modèle économique n'est pas encore prêt. Donc, les décideurs groenlandais se gardent bien de faire ce référendum.
Et du coup, en revanche, il y a une autre question, c'est est-ce que, parce qu'il y a eu un référendum dans le passé qui a conduit, est-ce que le Groenland ne fasse pas partie de l'Union européenne?
Oui, 1982.
Et j'ai rencontré beaucoup de Groenlandais qui se demandaient si la question aujourd'hui ne méritait pas d'être posée à nouveau.
Et en un mot, justement, là-dessus, dans les quelques études, c'est très rare, mais dans les quelques études qui testent ça, on voit effectivement qu'il y a une progression depuis un an, mais même un peu plus, depuis 3-4 ans, de l'intérêt, je dis bien l'intérêt, pour l'Union européenne. Mais il y a un enjeu, c'est il ne faut pas que ce soit Bruxelles qui gère les droits de pêche, parce que c'est la pêche qui fait le principal moteur économique du pays. Et si Bruxelles laisse passer la pêche, ça pourrait se négocier, une entrée du Groenland dans l'Union européenne.
Voilà, et la pêche, c'est bien effectivement toujours l'air de la guerre. Enfin, on se souvient au moment du Brexit, on en a parlé pendant combien de temps? Au moins 2 ans.
On n'a pas fini d'en parler.
Et si ce n'est plus, on n'a pas fini. Est-ce que ça veut dire, et ce sera la conclusion parce que l'heure tourne, que cette histoire, au fond, le verre à moitié plein, c'est que le Danemark s'est quand même rapproché du Groenland. Ils ont présenté des excuses, notamment sur les stérilisations forcées, etc. Ils se sont mis sur la carte réellement et au fond, ils savent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a ce verre à moitié plein quand même ou pas, Nico Mérède, ou pas?
Ce verre à moitié plein, d'un point de vue militaire, on va dire qu'il s'est traduit depuis 3 jours par une perspective qui est la suivante, des élus groenlandais ou des élus des 5 pays nordiques que j'évoquais tout à l'heure, qui disaient très clairement, voilà, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, ou même le Canada, le Premier ministre canadien hier soir, qui disait clairement, voilà, il faut pouvoir être capable de prévenir une venue des Américains. Pas rentrer en guerre, mais prévenir leur venue. Et aujourd'hui, depuis 1952, si l'armée danoise se sent attaquée par qui que ce soit, y compris un allié de l'OTAN qui viendrait au Groenland, elle a pour ordre de tirer sans demander à la chaîne de commandement ce qu'il faut faire. De fait, c'est ça aujourd'hui qui se discute dans la presse danoise, dans la presse groenlandaise, avec des élus comme Aya Chemnitz, qui disent très clairement, il faut se préparer à absolument tout.
Et ça peut être peut-être la fin de tout, comme on dit. Merci à tous les deux, à tous les trois, même avec Christian à l'instant. Merci beaucoup. Merci pour vos très nombreuses questions, preuve du grand intérêt que vous avez pour ces questions-là.